Connaître pour aimer.
Aimer pour protéger.
Dans la nature. Radio Biodive.
Les actus. Les sorties. Les interviews.
Radio Biodive. L'émission qui parle de ta nature.
Et bienvenue à tous dans cette septième émission. Je suis encore avec Philippe et
bonjour.
Camille et
bonjour,
puis Joël.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Radio Active, Radio Biodive qui est sur Principe Actif.
Tout à fait, tout à fait. Tu fais bien de le rappeler, cher président. Et écoutez, je propose qu'on commence tout de suite.
Oui, parce que le thème de l'émission, il y a beaucoup de choses.
Il y a beaucoup de choses, il n'y a pas un thème précis.
On va découvrir au fur et à mesure. Donc le jeu, le principe du jeu, vous le connaissez. Nous vous donnons un son de la nature et vous avez le temps de l'émission, c'est-à-dire pas tout à fait une heure, pour découvrir ce que c'est et deviner. Et on vous donne la solution à la fin. Alors, vous allez très vite voir que c'est un chant d'oiseau. Ça se passe quelque part dans la nature. Il y a plusieurs oiseaux. Alors attention, ça n'est ni le pinson, ni le pouilleux-véloce. C'est l'autre oiseau, celui qui a un très beau chant. Vous avez trouvé ? C'est joli, hein. Bon, alors maintenant, le coin-coin.
T'as des bonnes nouvelles à nous annoncer ?
Ah, j'ai une mauvaise nouvelle, malheureusement. Ah. Puis deux bonnes nouvelles.
Ah, ça, c'est...
Alors, je vais commencer par une nouvelle qui est un peu ancienne, mais qui vaut le coup d'être rappelée. Le Danemark. Alors, le Danemark est en train de modifier, de transformer son agriculture, et dans le bon sens. Le Danemark annonce un accord historique sur la mise en place d'une taxe carbone sur l'élevage, mais pas que la taxe carbone. Alors, en fait, le Danemark, c'est intéressant parce que c'est un pays qui est un peu comparable au nôtre. Il est très agricole. C'est le deuxième pays le plus agricole d'Europe, après nous. Et ils ont décidé de réduire considérablement leur empreinte carbone et donc de jouer sur l'agriculture. Donc pour ça, ils ont... Alors, ce qu'il y a d'intéressant dans cette histoire-là, c'est que il y a un accord. Il y a un accord entre les politiques, les associations et aussi les syndicats agricoles. Alors, on en rêve de ça en France. Et ils ont décidé de... Donc les agriculteurs ont accepté de payer une taxe carbone en fonction de leur empreinte. Mais évidemment, cette taxe carbone va aussi servir à les aider à moins produire de carbone. Et puis, ils ne vont pas jouer que là-dessus, ils vont jouer aussi sur la qualité de l'eau, parce qu'ils se sont rendus compte que leur eau, elle est chargée en nitrate, un peu comme chez nous, et puis elle perd son oxygène. Et donc, ils ont décidé de faire un effort là-dessus et de réduire les rejets et d'avoir une agriculture plus saine. Donc voilà, c'est bien, on en rêve. Alors, deuxième nouvelle, cette fois-ci, c'est plutôt une mauvaise nouvelle. 78% des rivières perdent de l'oxygène en France, mais aussi partout dans le monde, notamment à cause du réchauffement climatique. Alors, l'équation est toute simple, hein. La quantité d'oxygène qui est dissous, c'est pas cher. Enfin bon, bref, la quantité d'oxygène, la quantité d'oxygène qui est dissous dans l'eau dépend de la température. Plus il fait chaud, moins il va y avoir d'oxygène dans l'eau. Et comme en ce moment l'air se réchauffe, si l'air se réchauffe, l'eau qui est en dessous se réchauffe et il y a moins d'oxygène dans l'eau. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle parce que par exemple des saumons ou des truites qui ont besoin d'une eau très oxygénée vont avoir moins de rivières accessibles parce que des rivières moins oxygénées. Et ça s'observe partout dans le monde. Donc voilà, c'est un petit reportage, c'est un petit article dans Reporter. Comme d'habitude, on vous mettra toutes les références sur le site de l'émission. Alors, je finis par... je suis désolé, hein, Alex, je prends beaucoup la parole. Je vais finir par une bonne nouvelle. Vous savez peut-être qu'il y a une louve qui a été capturée par les chasseurs sur un piège à renard. Et alors, on se croirait dans l'histoire de Pierre et le Loup, puisque les chasseurs avaient décidé de ne pas relâcher cette louve et de la mettre dans un parc zoologique. Mais grâce aux associations, on a décidé de la capturer et de la renvoyer dans l'arc alpin. Donc c'est plutôt une
bonne... Hop, ouais, c'est pas une bonne nouvelle, que, ça,
comment
Philippe.
Comment ça ?
Ah non, je suis désolé, c'est pas une bonne nouvelle. Déjà, capturer, te maintenir en détention et capturer une espèce protégée, c'est totalement interdit par la loi, sauf dérogation. Et du coup, c'est l'État qui a décidé, en fait, sous prétexte que la louve était affaiblie, de la mettre en quarantaine au parc de Mugedan. Alors là où il y a déjà des loups en captivité, des loups canadiens, et du coup, on peut se poser la question... de l'intérêt et des risques sanitaires que ça pouvait encourir. Et en plus, c'est une louve sauvage, donc la mise en quarantaine, autant vous dire que la captivité n'y a pas du tout plus. Donc je pense pas qu'elle se soit remise de ses émotions pendant sa quarantaine au parc de Mugedan. Et en plus, sous la pression en fait des jeunes agriculteurs, l'État a décidé de renvoyer cette louve dans le parc alpin, ce qui est complètement une aberration, parce que en fait, et ça prouve bien que l'État a pas envie que le loup... se disperse en France et progresse en France et reste bien dans les Alpes. C'est une aberration, tout simplement parce que la louve, on ne savait pas si elle avait des petits chez nous. Il y a très peu de chance, hein, mais dans le doute, on ne sait pas. Elle va être mise, relâchée dans les Alpes au moment où les autres meutes vont élever leurs petits. Donc pour elle, retrouver une place à cet endroit-là, c'est un risque de se faire attaquer par d'autres meutes. Donc, et en plus, les agriculteurs des Alpes qui sont déjà sous pression avec les meutes présentes vont pas. Bon, j'ai déjà vu des infos récentes, prennent pas du tout bien la bonne nouvelle qu'on relâche une louve qui a été capturée en Seine-Maritime dans les Alpes.
Bah oui, t'as raison. Ouais. Tu me convaincs effectivement. Mais où est-ce que t'as lu ça ?
Alors c'est une tribune qui est mise sur Ferus, donc qui est une association qui protège les prédateurs de France.
Mon petit doigt me dit qu'on va en reparler dans l'émission de cette association.
Ah, c'est possible, ouais. C'est possible. Ouais. Donc voilà, c'est un peu une aberration. L'État fait encore des choses qu'il interdit de faire aux autres. Et en plus, où c'est une aberration aussi, on n'est pas sûr que cette louve, elle soit issue des souches italiennes. Parce qu'en
les
loups sont revenus naturellement dans les Alpes depuis l'Italie. Mais on a aussi maintenant des loups qui viennent plutôt de la Belgique et... de l'Allemagne et qui passe par la Belgique. Et d'accord. Du coup, on n'est pas sûr que cette louve, elle soit pas issue plutôt de cette souche-là, plutôt qu'une souche italienne. Donc, c'est carrément une aberration d'avoir relâché. Il aurait fallu... Cette louve a été capturée accidentellement par un piège à renard, comme tu l'as dit. Il aurait fallu tout de suite la relâcher en Normandie, là où elle avait été prise, pour qu'elle puisse... faire sa vie comme elle veut.
Mais dis donc, tu peux pas finir par une bonne nouvelle ?
Ah, tu veux une bonne nouvelle ? Allez,
oui.
Je t'en donne une bonne nouvelle. En plus, elle est locale, celle-ci. Elle est super locale. Alors, il y a un superbe article qui est paru le 8 mai dans la Dépêche. Peut-être que si vous vous baladez du côté de la cathédrale, vous avez pu entendre des cris bizarres depuis quelques semaines. Maintenant, ça fait bientôt 5 ou 6 semaines. Et figurez-vous que des faucons pèlerins sont présents sur la cathédrale d'Évreux. Et ça nous met du baume au cœur, parce qu'en 2022, l'association Naturellement Reuilly avait proposé d'installer un nichoir sur la cathédrale, tout simplement parce qu'il y avait des conditions favorables, de la hauteur qui plaît aux faucons pèlerins. D'habitude, c'est plutôt une espèce qui niche sur des falaises. Mais ils peuvent, quand il y a des bâtiments très très hauts, comme c'est le cas de la cathédrale, utiliser des bâtiments artificiels. Et il y avait... plein de pigeons, ce qui pose des soucis à la ville d'Évreux, mais aussi à la DRAC, parce que ça pose des dégâts sur le monument. Donc en 2022, on a proposé à la ville d'Évreux d'installer un nichoir à faucons pèlerins. Ils ont accepté, et du coup en 2023, on l'a posé. Et depuis, bah, on attendait désespérément le regard vide vers la flèche d'apercevoir un faucon pèlerin. Et tout s'est accéléré là, il y a 6 semaines. Il y a Guillaume, un copain de la ville d'Évreux, qui a commencé par nous dire qu'il avait entendu un faucon pèlerin. Donc là, on était sur l'alerte. Après, Joël, qui est présent ici, il me dit « Oh, je pense avoir vu, j'avais pas mes jumelles, mais je pense avoir vu les faucons au-dessus de la cathédrale. » Donc là, moi, je commençais à avoir les mains qui tremblent, j'étais dans tous mes états. Et la confirmation a été faite par Dylan du département, qui vient souvent faire des émissions aussi chez vous, qui a vu sur la cathédrale depuis chez lui et qui a réussi à prendre des photos. Et du coup, là, la confirmation a été faite, donc... On était tous fous et depuis, ça fait un peu le buzz localement, en tout cas, sur
c'est génial.
La presse, etc.
Eh bien, maintenant, c'est le moment de l'instant nature. Alors, Alex, oui, tu peux nous dire un peu ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on va entendre ?
Qu'est-ce qu'on va entendre ?
Des abeilles !
Des abeilles, ah oui, exactement. Ah, excuse-moi, j'y étais pas du tout. ouais, effectivement, j'étais avec Élise et Anne, qui sont deux adhérentes, et on sortait d'une sortie observation des busards, et on est tombé sur un essaim d'abeilles. Et ça tombait bien, j'avais une ruche de vide, donc on a décidé de faire un petit enregistrement sur cette récupération d'essaim d'abeilles.
Alors attends, parce que moi j'ai des gants de figuier. Ça c'est des neufs, et ça c'est des...
Je veux bien un gant droit.
Ça. Taille 11, c'est mignon.
Vas-y, prends les deux. Bon, si on la planque, c'est avant de mettre les seins dedans, peut-être. Ça va être compliqué, là. C'est trop...
Ce jour-là, on était en sortie, une sortie orientée sur la recherche des busards. Et en rentrant de cette sortie, Alex aperçoit un essaim, assez bel essaim, à la lisière d'un bois, tout à fait accessible à hauteur d'homme. Et du coup, on est allé chercher rapidement ce qu'il fallait, une ruche et des habits, tout ce qu'il fallait pour récupérer l'essaim.
Bienvenue dans Radio Pionnier. Je me trouve actuellement dans la nature.
Tu as trouvé ton coin, tu vas la mettre ?
Bah, je pense qu'on va repartir avec.
Tu peux peut-être
gratter ? Ouais, on va mettre le drap devant quand même. En fait, j'aime pas les jeter dedans, je le pose les seins devant et rentre toute seule dans la ruche.
Et après, tu peux pas te balader avec la boîte dans les mains, c'est trop dangereux ?
C'est pas ça, mais...
Hop, que j'aille doucement, là.
Alex a apporté une ruche vide, qu'il nettoie soigneusement.
Bien nettoyer. Attends, on va la mettre juste vraiment devant sur moi. Je voudrais pas qu'elle se bloque dans des toiles d'araignée, des trucs. Je vais le mettre devant, je préfère, comme ça elle rentre toute seule dans la ruche. Ouais, c'est elle qui rentre. Parce que quand tu les jettes dedans, en fait, tu leur forces la main. Après, en plus, il faut que tu refermes le toit. T'en as souvent plein qui sont dessus et que plus ou moins tu vas écraser. Là, dans l'idéal, moi, ce que j'adore faire, c'est vraiment faire ça, tu vois. Je pose les seins.
Donc là, tu poses la ruche, tu poses le drap. Là, pourquoi le drap ?
On va poser ça là, gentiment, devant.
Pourquoi tu cherches un drap ?
Le drap, c'est pour éviter qu'elle tombe dans l'herbe, tu vois, et qu'elle cherche dans l'herbe. Là, le drap, tu vois, hop, déjà, on voit bien.
Tu leur fais une petite piste d'atterrissage.
C'est ça. Et du coup, elles vont aller... elles vont rentrer dedans, toutes seules. Et ça va être cool.
Tu sais l'espèce que c'est, d'abeille ?
Oh, bah, c'est là...
Des brunettes, non, c'est pas ça ?
Il y a un peu de jaune, donc, mais il y a souvent des mélanges. On sait, c'est compliqué d'avoir une variété.
Bah, c'est mieux. Moi, j'ai pas peur. Non, il faut pas de gestes brusques, pas d'agressivité, il faut rester calme. De toute façon, je vais garder un peu votre distance.
Tu peux couper la branche derrière ma main, pas sur ma main.
Et tu fais tout en hauteur, je suppose, Alexandre.
Ouais, ouais, on va faire ça tranquillou. Mais à mon avis, c'est lourd quand même. Ouais, vas-y, je suis prêt.
Wow.
Et on a sectionné la branche. Alex a déposé précautionneusement les seins sur le drap blanc étendu devant la ruche. Et les petites abeilles, tranquillement, se sont déplacées vers l'intérieur, à l'intérieur de la ruche.
Ils ont toutes les abeilles autour d'eux. Regarde, Cap, oh là là, ça vole de partout.
Là, normalement...
Il ne faut pas bouger.
C'est trop bien. C'est un gros essaim.
Voilà, hop, on a déjà commencé à rentrer. Et après, c'est impressionnant la vitesse que ça va aller. Je ne sais pas si j'ai mon téléphone dans le premier.
Ça rentre.
Ouais,
c'est dingue que ça grandit aussi vite. Pourquoi ça rentre aussi vite?
Parce qu'elle considère que c'est pratique. En plus, là, c'est des...
Ça sent le miel.
Et après, tu vas voir, il y en a plein qui vont se mettre un peu sur le dessus. Et elles ont ce qu'on appelle la glande de Nazanov. Je ne sais pas si je prononce bien.
Ouais.
Et elles vont sortir cette glande, battre des ailes pour envoyer des phéromones et dire à tout le monde,
on a trouvé
une maison. Donc là, bon, il y en a un petit peu qui sont tombés à côté, c'est
oui,
chiant.
Mais avant de revenir,
je pense qu'on a quand même la reine dans le gros de la grappe.
Attends,
là. Et t'as vu, regarde, là, ça rentre super vite.
Ouais.
Mais je pense que dans...
Et la reine, elle est au milieu de tout ça.
Ouais, au milieu de tout ça. Alors, il y en a, les vrais apiculteurs s'amusent à... Ils auraient secoué sur un drap.
Pour accélérer.
Et non, pour chercher la reine. Et après, ils la mettent dans une petite cage, ils la mettent dans la ruche, comme ça, ils sont sûrs qu'elle accepte bien la ruche.
Ils peuvent
la marquer. Donc, je crois qu'il y a des couleurs pour les années. Et tiens, on va juste aller couper, regarde, elles reviennent se positionner. Où étaient les seins? Je vais juste couper la petite branche qui est là et je vais les remettre devant aussi. C'est possible. J'ai bien fait de mettre deux éléments, je pense qu'il est vraiment énorme les seins.
Hein. Beaucoup,
hein. Ouais. Je pense que en plus c'est la période du colza. Je verrai, mais je pense qu'il ne faudra pas tarder à...
Sinon, si tu veux, on peut le mettre dans... Là, on avait mis la petite ruchette, tu sais, la toute petite essaim bon. D'autre fois.
Soit je vais les poser à Reuilly direct.
Ou tu les poses à Reuilly direct.
Soit... ouais, parce qu'en fait, j'ai peur que si on les met...
Que les retransvaser encore et puis...
J'ai pas envie de les retransvaser. Là, je vais poser la ruchette. Laisser dans cette ruchette.
Tu la poses à côté d'une autre ruchette.
Mais si on va chez toi ou chez moi, j'ai peur que ce soit trop près et je vais être obligé de les enfermer. Ouais, je sais pas.
Oui, Reuilly.
Après, c'est un...
Il y en a en ce moment des vivants, t'as Reuilly ou pas?
Non.
Il y a plus rien de vivant.
Non, et puis en plus, c'est bien, il y a les pommiers qui fleurissent en ce moment et tout. Mais c'est cool. Ça va faire plus de fruits.
Il y a plein de choses autour.
Ils explosent, les pommiers là. Ah, ça dépend lequel.
Ah, ça y est, ils commencent à appeler.
Ouais.
Comment tu sais qu'ils appellent?
Tu vois, celles qui sont sur la plaque, là.
Ouais.
Alors, elles n'ont pas l'air très agressives. Mais tu vois, si tu regardes,
sur le
bout de l'abdomen, il y a comme un petit point blanc qui ressort. Ça, c'est une glande. Et elles battent des ailes très, très fort.
Ouais. Elles ont le cul en arrière aussi.
Ouais. On est...
Venez,
on a trouvé quoi.
T'en as une autre petite là, tu veux la récupérer?
Ouais,
vas-y. Tiens, tu coupes. Ah, au sol, fais attention. Attention au sol, il y en a au pied. Ah oui, il y en a plein au pied. Attends, je me rapproche trop. Elle met combien de temps à toutes se regrouper? Ça va être ce soir?
Oh non, là, ça peut aller assez vite. Bah, ça va prendre quand même un peu de temps, mais là, si... Une fois que la reine va être dedans, mais regarde, là, si tu regardes, ça n'arrête pas de rentrer tout le temps.
Si
on va accélérer un peu, on peut faire ça. Ah, ça va faire longtemps qu'elles sont là, elles ont commencé à faire de la cire.
Tiens, remets au-dessus de ça.
Regarde, on voit les... Ouais.
Attends, elles vont monter dans la reine.
Est-ce qu'on verrait la reine? Parce qu'elle est plus grosse,
normalement. On peut chercher, ouais, mais après, ça se trouve, elle est déjà rentrée. Ça se trouve... Et là, regarde, tu vois, ça va super vite maintenant.
Oh la vache, ouais, filme ça, c'est beau ça.
C'est fascinant.
Hein. Ah ouais, c'est hypnotisant aussi.
Fascinant.
Ça va vite, regarde. C'est l'auto. Ah, la reine, attends, il y avait un gros truc qui est rentré.
C'est vrai?
Tu l'as filmé, c'est ça?
Ouais, j'ai filmé, donc peut-être que je l'ai eu.
Je sais pas si c'était une reine.
Ah,
regarde, il y en a une grosse là aussi.
Il y a un mâle aussi.
Là, il n'y en a pas une plus grosse là.
Là, ici. Ici,
ah non, oui, là,
juste devant toi.
Ouais, c'est un faux bourdon, ça.
C'est un faux bourdon.
Ouais, c'est un mâle, tu vois. Il a des gros yeux.
Ah ouais, d'accord.
Ça, c'est des mâles. J'en ai vu un rentrer aussi, un mâle.
Regarde, elles sont toutes mignonnes, j'en ai une sur la main. Elle se fait sa petite toilette, elles ont compris qu'on était venus les aider. J'arrête de souffler sur les abeilles. C'est une bonne idée.
Pourquoi ça fait quoi?
Bon, rien, mais
une brosse.
Quoi. En fait, si tu veux, elles sont super. Ben, dans la varée, moi c'est une ruche varée, j'en avais à la maison avant. J'ai les enlevés parce que bon, les voisins n'aimaient pas trop qu'il y ait des abeilles
ils ont peur.
Trop proches. Ils avaient peur. Puis ça s'aimait quelques fois dans leur jardin. Donc,
ouais.
Ils étaient voilà, quand les gens ne connaissent pas, ils paniquent assez vite. Et moi, elles sont super douces. En fait, j'ouvre pas pour voir ce qui se passe dedans. J'ai des vitres derrière.
Ah oui.
Et sauf qu'une fois, il y avait un petit carreau de vitre qui était cassé. Et j'avais pas envie de refermer mon loquet en bois et de les écraser. Donc j'ai soufflé pour qu'elles soient vraiment attaquées. Elles sont pas contentes. On souffle pas sur les abeilles.
Et ça, que tu les jettes comme ça, elles disent rien?
Non, tu secoues toute la masse, en fait.
Est-ce qu'on va récupérer leur miel qu'elles ont posé là? Non, c'est
pas du miel, là. Alors, en fait, c'est quoi, ça? C'est de la cire. Donc, ce qui me fait penser qu'à mon avis, elles sont pas arrivées de ce matin.
Et si tu mettais le petit... Ah ben non, tu peux plus réouvrir, là. Parce que si tu leur mettais leur petit bout de cire, là, dedans, elles auraient continué?
Non, ouais. Ben non, après...
C'est pas possible.
Si, mais après, toi, t'as une branche, c'est un peu gênant, toi. Alors, l'idée, là, cette ruche, elle est faite aussi pour récolter. Donc, comme je te disais, je vais pas forcément... Alors, si, je vais peut-être mettre... on va voir comment elle se développe. Si elle se développe vite, Là, il est gros, donc à mon avis, vu qu'il y a encore le colza, il y a moyen que je sois obligé de mettre un autre élément en dessous assez rapidement.
Ah oui, c'est des caisses que tu empiles les unes sur les autres.
Du coup, je la grandis par le bas.
Toi, t'as grandi par le bas.
Ah, t'as grandi par le bas.
Ouais.
Et pourquoi par le bas et pas par le haut?
Parce que bah, naturellement, elles construisent de haut en bas.
D'accord.
Et en fait, sur les dadans, tu rajoutes des réhausses, en fait, généralement, tu mets une grille à rennes. Et tu évites qu'en fait elle ponde dans le cercle où tu veux récolter le miel. Mais là, l'objectif de ça, normalement la reine aime bien pondre dans la cire qui est assez fraîche. Elle aime bien pondre dans la cire fraîche. Donc du coup, le vu que tu grandis par le bas, elle va descendre le couvent au fur et à mesure. Et logiquement, toi,
d'accord,
tu peux récupérer le miel qui est plus
haut.
Mais c'est un peu plus long et des fois, elle reste entre les deux et tu peux pas forcément récolter. Quoi. Mais logiquement, c'est plus une ruche qui respecte entre guillemets le.
Bah, déjà,
la biologie de l'abeille, quoi.
Ouais. Et déjà, là, il y a les 3 quarts, 5, 6e qui sont rentrés.
Oh oui, on dirait une fourmilière.
Bah, c'est un peu la
ruche.
Même...
c'est une ruche.
C'est la même famille, hein, presque. Hein. Ouais. Les abeilles et les fourmis sont très proches. Hein.
Alors, il faut savoir qu'on est quoi, 50 cm d'elle, de l'essaim.
Ouais. Moi, si je tends le bras, je peux toucher la ruche. Là. Et tu vois, à mon avis... Il y a un mélange, il y a des toutes petites noires, mais tu en vois aussi celles qui ont un peu plus de jaune, là, tu vois, comme celle-là.
Il y a aussi une grosse. C'est encore un mâle.
C'est un mâle, ouais. Tu vois, en fait, il a des gros yeux, des grandes antennes. La reine, ça aura vraiment la même tronche en termes de tête qu'une ouvrière. C'est juste l'abdomen qui sera très gros. Et tu vois, là, on voit bien leurs petites glandes de... Et
c'est
toi, celle-ci, elle a l'abdomen jaune, donc ça, c'est ce qu'on appelle plutôt la variété Buckfast. Et les apiculteurs aiment bien, parce que c'est des abeilles qui sont assez douces, qui supportent bien la manipulation, qui sont pas très agressives.
Il y en a une qui a du pollen plein les pattes, à les rentrer. Les culs en l'air, j'adore.
La ruche varée, c'est une ruche que les apiculteurs traditionnels critiquaient un petit peu au départ. Qui n'est pas très pratique pour récolter du miel en fait. Mais et on disait, oh, tu verras jamais la reine, machin. J'ai vu à travers la vitre une fois la reine, j'ai des vidéos de tout ça dans ma conférence. C'est assez sympa. Il faut rentrer et tout filmer.
Qu'est-ce qu'il y a? Non, pas sur moi. Elle est partie?
Ouais, pas rien.
Il y en a une sur la main.
Ça c'est bon. C'est plutôt le visage des fois qui me fait un petit peu peur.
quand elles viennent sur le bout du nez ou près des yeux.
Ouais. Moi, j'avoue, je joue pas trop. Moi, je me fais piquer ici, le lendemain, je suis gonflé jusque-là. J'ai une belle réaction.
Non, moi, je sais que pas d'agressivité, pas de gestes brusques, que de la douceur et de la lenteur, et normalement...
Mais en fait, toi, ça reste des animaux sauvages, on peut pas savoir ce qui s'est passé. Tu vois, là, on se dit, oh, les seins, il est au bord d'un chemin. Tu te dis, bon, bah, il est de ce matin. En fait, quand tu vois la cire qu'il y a sur la branche, ça fait peut-être plusieurs jours qu'il est là. Et du coup, elles peuvent être un peu plus agressives, parce que vu qu'elle a commencé à construire de la cire...
Elle n'est jamais restée là, comme ça.
Non, bah, en fait, elle pourrait l'été. Mais à un moment donné, déjà, le poids de ce qu'elles vont charger dans les alvéoles aurait été trop lourd.
Ouais.
Et puis, en fait, elles ne peuvent pas passer l'hiver sans protection.
Ça, c'est pas
fait
manger, là. Et est-ce que c'est comme les frelons? Les ouvrières meurent et les reines restent l'hiver.
T'as une partie des ouvrières qui vivent aussi l'hiver. Et d'accord. Qui vivent plus longtemps. En fait, à cette époque-là, la vie d'une abeille, ça va être un mois à peu près. Et par contre, celles qui vont rester l'hiver et qui vont avoir le rôle de maintenir la chaleur dans la ruche, vont vivre plus longtemps.
D'accord. Bah dis donc, quasi tout le monde est rentré, il reste plus que les petits bouts là-bas.
On a patienté jusqu'à ce que pratiquement toutes les abeilles soient entrées dans la ruche. Alex a fermé la ruche et l'a transportée à l'ENS de Reuilly, qui se trouve à une quinzaine de kilomètres d'ici.
Oh, no. Hört euch.
C'était Possession de Compromat. Vous êtes bien sur Radio Biodive, l'émission qui parle de ta nature sur Principe Actif, et c'est le moment de l'espèce du mois.
Je suis la grenouille à grande bouche. Et toi, comment tu t'appelles ?
Alors, l'espèce du mois est le rossignol Philomèle.
Le rossignol. Mais Luis Mariano, il a fait une chanson sur le rossignol. Tu veux que je chante ?
Oula, non. Le beau temps est arrivé. On va le garder un petit peu, s'il te plaît, Philippe. Alors, avec un nom particulier, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ?
Oui, bon, d'accord. Bon, en français, on l'appelle rossignol Philomèle. Rossignol viendrait du provençal rossinol, qui vient lui-même du latin. Lucignolus, le L s'est transformé en R. Lucignolus, c'est le diminutif de Lucinia, qui désigne un petit rossignol. Philomèle, alors voilà. Pour Philomèle, alors c'est particulier, Philomèle, on le trouve dans les transformations, dans les métamorphoses d'Ovide. C'est la fille, Philomèle, c'est la fille de Pandion. Pandion, c'était un roi d'Athènes. Et la pauvre Philomèle, elle a été violée par son beau-frère, et pour qu'elle ne parle pas, il lui a coupé la langue. Il est vilain, hein ? Et elle a cherché à s'en venger ensuite, il l'a poursuivie. Et pour que cette pauvre Philomèle échappe à la colère de son beau-frère, elle a été transformée par les dieux en rossignol. Alors Philomèle, on peut aussi analyser un peu son étymologie. Philo, c'est « qui aime ». Et Mel, c'est la mélodie. Donc Philomèle, c'est celui qui aime la mélodie. On le comprend pour le rossignol. En latin, c'est Lucinia megarynchos. Lucinia, comme on vient de le voir, désigne en latin le rossignol. C'est aussi un mot qui est associé au jeu, au plaisir, sans doute à cause du chant très agréable de cet oiseau. Megarynchos, méga, ça veut dire grand, rynchos, c'est le bec. C'est donc un oiseau au grand bec. Tiens. C'est surprenant, c'est pourtant un petit insectivore qui a un tout petit bec. Ah oui, mais c'est pour le distinguer de son cousin qui, lui, a un bec plus petit. Donc, mégarynchos, c'est parce qu'il a un plus grand bec que son cousin, le rossignol prunier. En anglais, on l'appelle common nightingale. Common, le rossignol. Mais non, c'est un oiseau exceptionnel, voyons. Alors, on va voir la suite. Nightingale, night, c'est la nuit. Gal, ça veut dire un chant. C'est un chant gay dans un vieil anglais. Donc pour les anglais, c'est celui qui chante la nuit. Donc là, je suis d'accord. Common, pas vraiment, mais voilà.
Alors c'est vrai qu'il s'agit de l'un de nos rares passereaux de chez nous, à chanter régulièrement la nuit. Et d'ailleurs, je me demande bien quand est-ce que les mâles se reposent, parce qu'ils sont aussi très vocaux de jour.
Ah, effectivement. Mais le chant majestueux et sonore n'est pas sa seule caractéristique. Il y a aussi son aspect. Alors, c'est curieux parce que autant son chant est brillant, autant son physique est, on va dire, terne. Tu pourrais nous le décrire, Camille ?
Alors, bien sûr, il est très discret et ça, c'est dû à plusieurs choses. Donc déjà, il y a sa petite taille. Donc il fait environ 16 cm de long, 24 cm d'envergure pour un poids d'environ 20 grammes. Donc c'est vraiment un petit oiseau. Mais sa discrétion est surtout due à son pelage. Donc comme tu l'as dit, terne, brun et qui peut être à nuances rousses. Et il a le dessous plutôt blanc. Enfin, un blanc pas très éclatant, mais plus blanc que le dessus. Et son croupion et sa longue queue sont plutôt roux foncé. Et d'ailleurs, lorsqu'il est actif au sol, il redresse sa queue à 90 degrés et peut faire penser à un gros troglodyte. Alors, quant à la femelle, elle est plus terne que le mâle, ce qui est tout à fait normal, pour ne pas se faire repérer par les prédateurs lors de la couvée. D'ailleurs, peux-tu nous parler un peu des prédateurs du rossignol ?
Ah bah, les prédateurs, justement, c'est un peu lié à son milieu de vie. C'est un petit oiseau qui aime bien les fourrés épais, les lisières. Il aime particulièrement les zones un peu humides, près des ruisseaux, mais pas que. Un petit buisson, tout ça. Et il fait son nid en bas, assez bas. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est que les prédateurs, tels que le renard, bien sûr, mais ça peut être aussi des corvidés, ça peut être le geai, ça peut même être des rats, et ben, ils vont repérer ce nid et ils vont pouvoir croquer, même les écureuils, ils vont pouvoir croquer toute la nichée.
Alors oui, malheureusement, mais Heureusement, dans un sens, les parents peuvent élever deux nichées dans la saison. Une première vers avril-mai et une seconde entre fin mai et juin, donc c'est très rapproché. Il est possible que la femelle couve la seconde nichée tandis que le mâle finit de s'occuper des petits de la première couvée. C'est incroyable, non ? Un super travail d'équipe. Donc à chaque nichée, la femelle pond entre 4 et 5 œufs. L'incubation dure à peu près 13 jours. Les jeunes auront leur plumage au bout de 11 jours, mais ne deviennent autonomes qu'à l'âge de 3 semaines, 1 mois à peu près. Alors, il n'est pas rare que les jeunes quittent le nid avant de savoir voler, comme beaucoup d'autres oiseaux, mais pas de panique, les parents continuent de s'occuper d'eux jusqu'à ce que les petits volent de leurs propres ailes. Alors, on a déjà parlé de son nom, de ses atouts de chanteur et de camouflage, de la reproduction, mais que mange-t-il, ce petit oiseau ?
Ah ben, on a déjà donné un indice, il a un bec.
Un bec, ouais, assez pointu.
Donc, fin d'insectivore. Donc, il aime bien les insectes, mais aussi tous les invertébrés. Donc, tous les petits invertébrés, il en fait son régal. Et les fourmis, les cloportes, qui ne sont pas des insectes. Mais en automne, il y a un petit peu moins d'insectes et il ne néglige pas de manger quelques petites baies, quelques petits fruits et quelques graines. En fait, c'est à cause de ce régime alimentaire avec les insectivores qu'il est...
Migrateur, peut-être ?
Eh ben oui, migrateur ! C'est un grand migrateur. Il traverse les océans pour passer l'hiver au sud du Sahara. Alors, dans son physique, on peut voir qu'il a des grandes ailes, curieusement. C'est un petit oiseau discret, mais il a des grandes ailes. Et donc, c'est un très bon voilier. Et c'est un oiseau qui, comme on l'a vu, il chante la nuit, mais... pour migrer, il se déplace aussi la nuit. Il se déplace pas trop de jour, il se repose, il mange un peu, mais il vole la nuit. Ce qui fait qu'il passe pas mal invisible. Il est invisible pour les ornithos pendant sa migration. Et voilà. Et la migration, évidemment, n'est pas quelque chose sans danger. Il y a pas mal de rossignols qui disparaissent pendant la migration.
Eh oui, il y a beaucoup de mortalité lors des voyages entre le mauvais temps, l'épuisement, le braconnage, etc. Mais pour l'instant, c'est une espèce qui reste commune et non menacée, mais il n'en reste pas moins qu'elle est protégée et très très sensible aux conséquences de la modernisation de l'agriculture sur son environnement. Alors, moralité de cette espèce, pour le voir, arrêtons de dormir.
Ah, tu veux dire pour l'entendre, parce que déjà de jour, c'est difficile de le voir, alors la nuit... une petite remarque, on dit souvent que le rossignol chante la nuit, et on sous-entend qu'il ne chante que la nuit. Comme tu l'as déjà dit, il chante aussi de nuit, mais il chante de jour aussi. Si on le remarque surtout la nuit, c'est parce que la nuit, la plupart des oiseaux ne chantent pas, à part nos vieilles copines les chouettes. De jour, son chant est masqué en partie par les autres chanteurs, merles, grives, pinsons, etc. Et donc, on le remarque moins, alors que la nuit, on peut admirer ce soliste virtuose.
Super, merci beaucoup.
Alors, maintenant, ça va être le moment de l'interview. Alors, il se trouve que j'ai rencontré quelqu'un qui est devenu mon ami, c'est Bernard. Et Bernard, c'est quelqu'un qui fait partie de l'association Férus, dont nous parlions tout à l'heure. Férus, bon, il va nous expliquer ce que c'est, donc je ne vais pas vous le rappeler. Enfin, c'est une association qui défend les grands prédateurs. Et il va surtout nous parler d'une opération très intéressante à propos des loups. Il va nous parler de l'opération Pastoraloup.
Bonjour Bernard.
Oui, bonjour Philippe. Déjà, merci de m'accueillir dans ton émission. Bah, écoute, j'habite Compiègne dans l'Oise, et depuis toujours, je suis passionné par la forêt. Puisque à deux pas de ma ville et à deux pas de l'endroit où je suis né, il y a une grande forêt de 15 000 hectares où j'ai tout appris pratiquement de la vie. Et j'y ai beaucoup d'activités en lien avec la nature, même si ce n'est absolument pas mon métier. Mais j'ai toujours eu un attrait particulier pour les milieux sauvages. J'ai toujours été chercher un peu plus loin, effectivement, l'aventure, mais quand même en relation avec la forêt.
Tu fais partie de l'association Férus.
C'est ça. Férus est une association qui a une vingtaine d'années et qui se préoccupe de la cohabitation entre les activités humaines et les espèces de prédateurs que sont en France le loup, le lynx et l'ours. C'est essentiellement sur cette activité-là que cette association s'est développée. Elle est devenue reconnue pour ses qualités et son intermédiation entre justement les activités humaines et pastorales en particulier et la vie sauvage. Depuis le retour du loup, puisque pendant plus de 50 ans, le loup a été totalement absent du territoire français suite à son éradication par les autorités. Et il est revenu de lui-même à la recherche de nouveaux territoires par le Mercantour il y a un peu plus de 30 ans. C'est que Férus est une association qui a voulu justement trouver un terrain, une marge, comme l'on dit, une frontière qui puisse être acceptable à la fois pour les activités pastorales, donc l'élevage, ovin essentiellement, et la vie du sauvage et donc la vie des loups. Et ce programme s'est appelé Pastoraloup. Il associe comme cela dans le même nom les deux pôles de cet affrontement. Et ce programme permet justement à des bénévoles comme moi de venir réellement garder la frontière et éviter qu'il y ait trop d'attaques ou pas d'attaques du tout. D'ailleurs, c'est notre objectif, des loups sur les troupeaux de bergers et les troupeaux de brebis, mais gardés par les bergers qui sont souvent assez démunis face à ça.
Alors Bernard, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne, Pastoraloup ?
Alors pour un bénévole comme moi, l'objectif c'est donc d'être apte à aller pendant une semaine en autonomie et donc relativement seul, à proximité du troupeau ovin, dans la montagne. Vraisemblablement, en tout cas la plupart des missions sont relativement isolées, par exemple à l'estive, pendant l'été, pendant que les brebis et les moutons sont laissés relativement isolés de la ferme et de la bergerie. Et donc on les ramène avec le berger la nuit en protection avec les patous dans un parc fermé, électrifié. Et pour ce qui me concerne, donc j'assure la garde de nuit, c'est-à-dire que je suis à proximité, sous ma tente, seul. C'est un point important de la mission. Il faut être effectivement à l'aise avec la solitude. Par contre, le milieu, évidemment, est extraordinairement beau et sauvage. Et l'objectif, c'est de pouvoir faire de la prévention, donc régulièrement ou irrégulièrement, de faire des tours du parc, d'envoyer de la lumière dès qu'on observe quelque chose, des paires d'yeux par exemple, voire du son avec un sifflet haute fréquence, pour effaroucher l'éventuel prédateur, qu'il concerne des renards ou des loups. On est là pour assurer la paix entre à la fois les espèces sauvages qui doivent aller du coup voir ailleurs, mais surtout le troupeau. On est là pour quand même compléter et aider les bergers et les bergères à pouvoir aller se reposer, parce que sans ça, ils sont malheureusement accaparés par cette activité-là tous les jours de la semaine et 24 heures sur 24. Donc c'est vraiment une mission presque de salubrité, parce que souvent ils sont sous pression psychologique et on les aide quand même à se soulager de ça. Et nous, on assume une mission qui est finalement relativement simple, exigeante physiquement et psychologiquement, mais en pleine nature, donc passionnante.
Alors, quels sont les bergers qui peuvent profiter de ce dispositif ?
Alors, tous les bergers, à compter du moment où ils ont une volonté de trouver un compromis, donc une zone de respect mutuel avec le loup. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas anti-loup, parce que là, on ne peut pas les convaincre, nous, d'aimer le loup ou de le supporter. Ils ont donc déjà une démarche de responsabilité par rapport à la présence de leur troupeau en pleine nature. Ils savent très bien que leurs troupeaux ont un impact. Ils veulent assurer pour cela des pratiques respectueuses de l'environnement. Et inversement, ils veulent aussi que la société les aide. Donc la plupart des bergers, bergères ou éleveurs qui sollicitent Pastoraloup ont déjà mis en place les principaux moyens de protection pour lesquels ils touchent des aides financières significatives. Le parc, ce qu'on appelle le parc électrifié, qui permet de garder les bêtes pendant la nuit, voire parfois aussi pendant la journée s'il est plus grand, où on les passe du parc de nuit au parc de jour. Et élément clé du dispositif, les fameux chiens de protection, les gros chiens blancs, les patous, bien connus des randonneurs et des promeneurs, qui effectivement sont la clé de voûte du dispositif, parce que eux, ils sont H24, ils réclament pas autre chose que d'avoir leur croquette du matin, et ils assurent cette permanence. Nous, on est là en complément pour avoir vraiment une fonction d'effarouchement. Le loup déteste la présence du bipède, bien plus que celle du patou. Il ne mettra pas en place les mêmes stratégies. Et donc, si les bénévoles sont présents, et c'est le cas pour l'instant depuis le début du programme, il y a vraiment une efficacité redoutable de prévention, donc, pour éviter les attaques des loups sur les brebis.
Et donc, comme tu l'as dit, il faut que les bergers ou les éleveurs fassent la demande.
Alors c'est une demande effectivement qui est très simple parce qu'on n'est pas dans un cadre administratif avec des CERFA, avec des demandes, avec une validation.
Oui, c'est demandé à Férus, à l'association Férus.
Voilà, ils établissent un contact avec Férus. On a une chargée de mission, Fanny, qui s'occupe justement d'aller visiter l'élevage sans fonction d'audit ou de contrôle, mais juste pour percevoir effectivement comment un bénévole présent, puisqu'elle nous connaît tous très bien, Fanny, comment un bénévole va pouvoir trouver un minimum de confort, parce que on essaye quand même de nous apporter un minimum de confort, au mieux un endroit dans lequel on va pouvoir s'installer, mais parfois il n'y en a pas, de l'eau quand on peut, de l'eau chaude idéalement, un point d'électricité ou pas, bref, le minimum qui permet effectivement d'assurer la présence humaine pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois consécutifs. On a des éleveurs qui toutes les semaines, puisqu'on fait une relève de bénévoles par semaine, toutes les semaines ont un nouveau bénévole qui arrive. Donc il faut aussi que ces éleveurs et ces bergers soient conscients qu'il va falloir qu'ils soient aussi coopératifs avec nous pour nous expliquer comment fonctionne leur troupeau, qu'ils nous présentent à leurs chiens, puisque la relation avec les patous, il faut qu'on en assume la responsabilité en leur absence. Les dangers éventuels du milieu, les endroits qui sont un peu cachés, dans lesquels le troupeau peut se mettre, et du coup on n'a pas de vue sur le troupeau. Donc tous les trucs et astuces qui assurent justement la meilleure protection, et c'est effectivement auprès de Férus que cette relation s'établit.
Super, c'est un beau travail. Alors ça doit être difficile d'être bénévole pour Pastoral ou non?
Comment
on peut faire? Est-ce que, si on a des auditeurs qui veulent rejoindre Pastoralou, qu'est-ce qu'ils doivent faire?
Alors, il y a déjà peut-être un bon moyen pour se donner un peu l'impression. Il y a des vidéos disponibles, des reportages disponibles sur des chaînes de diffusion de vidéos qu'on ne peut pas citer, mais que tout le monde peut connaître par ailleurs.
YouTube.
Tu l'as dit. Eh bien, il suffirait par exemple de mettre Pastoralou dans la barre de recherche, et vous aurez, les auditeurs qui seraient intéressés, auront des reportages avec les témoignages, à la fois donc des bénévoles, et puis également évidemment les témoignages des éleveurs et des bergers sur ce qu'ils font. C'est un bon moyen de se donner envie de le faire. Après, nous organisons, Férus organise des sessions de stage au printemps et pendant l'été, puisque avant d'être, envoyé en mission Pastoralou, il faut faire une formation pendant laquelle on apprend l'essentiel de la vie d'un berger ou d'une bergère, et ça se passe au sein d'un élevage pilote qui est depuis très très longtemps partenaire de Pastoralou et qui aujourd'hui accueille les nouveaux. Et également, on a des interventions de l'Office français de la biodiversité, de la direction départementale des territoires qui aujourd'hui assure la relation opérationnelle, technique et les aides financières en particulier pour les éleveurs. On est formé, on rencontre d'anciens bénévoles en activité qui transmettent leur savoir-faire pour assurer l'envie d'y aller, parce qu'effectivement, ça reste quand même aussi une condition préalable. Il faut accepter l'idée d'être pendant une semaine tout seul et tant qu'à faire l'imaginer comme tel, sous la pluie ou dans une météo qui est relativement délicate, sans avoir tout le temps à se plaindre qu'on n'a pas sa douche du jour, qu'on n'a pas pu faire son thé, qu'on manque de temps pour dormir. C'est quand même des conditions de bivouac pendant une semaine, dehors, au pire, pour moi c'est au mieux dehors, parce que c'est génial de pouvoir bivouaquer à l'extérieur. Et dans des conditions qui sont quand même en confrontation avec la nature, quoi. Si on a peur de la nuit, si on a peur de marcher à la frontale autour d'un parc de nuit avec des patous qui crient et qu'on s'effraie quand on voit une paire d'yeux jaunes dans la lumière de la lampe torche, c'est certain que c'est pas évidemment favorable à prendre du plaisir, mais pour ma part et pour celle des autres bénévoles qui aujourd'hui sont sur le terrain, ça fait vraiment partie de nos semaines de bonheur au long de l'année.
Ok. Donc c'est important d'avoir une formation. Et donc, tu connais les dates des prochaines formations? C'est en mai, entre mai et l'été,
printemps,
c'est ça?
Printemps-été, voilà. Printemps-été. Elles sont organisées dans les Hautes-Alpes, pas très loin de Gap, dans une exploitation qui, comme je le disais, a été vraiment la première.
Et ça dure une semaine.
Ça dure une semaine, effectivement.
Et après, on a le choix de faire partie des bénévoles qui interviennent ou pas.
Oui, ça reste toujours gratuit. Il y a juste une contribution aux frais pour la semaine de formation de 100 €. Et à partir de là, ça reste toujours à la fois sur la base du volontariat. Il y a un certain nombre de candidats qui font cette formation d'une semaine et qui, à la fin, ne s'engagent pas plus. Parfois, il y a évidemment des contraintes d'agenda.
Bon, c'est dommage, mais ils ont quand même acquis des connaissances.
De toute façon, ils ont acquis des connaissances. On leur a transmis les valeurs de cohabitation et de respect de part et d'autre, puisque donc il est bien clair que la démarche de Pastoralou, mais aussi plus globalement la démarche de Ferrus, c'est pas du tout d'aller à l'opposition de tel ou tel, d'être pro ou anti quoi que ce soit, c'est d'essayer de vraiment de faire évoluer effectivement les consciences, et la formation a aussi cette vertu évidemment, pour qu'on se rende compte qu'il n'y a pas de mal ou de bien dans tout cela, il y a une nécessité de cohabitation. Personne n'a de plan B, personne n'a de planète B, pas plus les loups que nous. Il faut qu'on trouve de nouveaux terrains de compromis sur le territoire.
Merci beaucoup Bernard.
Merci beaucoup Philippe, merci de ton accueil.
K2000 de Vincent Perrin. Nous sommes toujours dans Radio Biodive, une émission de Principe Actif. Alors, un petit clin d'œil à Bernard. Merci Bernard de nous avoir parlé de Pastoralou. Et chers auditeurs, n'oubliez pas que si vous avez envie de participer à l'aventure, vous pouvez vous inscrire à Pastoralou. On mettra le lien sur le site de l'émission. Et maintenant...
Ça se passe près de chez vous !
Ce sont les sorties du mois avec Camille.
Oui, alors on va commencer comme d'habitude avec les Découvrez la nature dans l'heure. Donc le samedi 30 mai au Vieil Évreux, vous pouvez partir en balade nocturne à la découverte des fascinantes chouettes et peut-être trouver la Dame Blanche ou la Chouette aux yeux d'or. Le dimanche 7 juin, au potager de Beauménil, découvrez comment créer et entretenir une mare avec le CPIE Millet 1 Légumes. L'occasion aussi d'en apprendre plus sur les mystérieux habitants aquatiques de notre région. Et je vous donne une dernière activité DNE, donc Découvrez la nature dans l'heure, pour les petits gourmands. Ce sera le mercredi 17 juin à Acloux. Suivez l'animatrice du Conservatoire des espaces naturels de Normandie à la découverte de la zone humide, du cycle de l'eau, des libellules et autres insectes pour finir sur une dégustation de plantes en sirop. Retrouvez toutes les animations sur le site internet lanaturedansl'heure.fr. Encore deux petites choses, donc le jeudi 11 juin à 18h30 à la médiathèque d'Évreux, vous pouvez participer à la formation de la LPO sur les papillons de Normandie. Et pour ce mois-ci, il y a encore un événement à ne pas manquer, c'est la troisième édition, les Historiques de Gaillon, qui se tiendra le samedi 6 et le dimanche 7 juin au château de Gaillon. Vous pouvez plonger dans les temps passés avec des défilés costumés, des soirées festives, un marché artisanal, des conférences, des ateliers et même des chasses au trésor. Un week-end rempli de magie pour les grands et les petits. Et vous pouvez retrouver toutes les sorties et infos sur le site de l'émission.
C'est le moment de la pause lecture avec Joël.
Bonjour. Eh bien, aujourd'hui, contrairement au mois dernier, Gros pavé. C'est un livre dont je parle souvent à tous les passionnés de nature que je rencontre. Il s'agit des souvenirs entomologiques de Jean-Henri Fabre, 1823 à 1915, plus de 2000 pages. Rassurez-vous, rien n'oblige à tout lire d'un seul trait. Il peut se déguster partie par partie. En effet, il est composé de 10 séries décrivant plusieurs espèces d'insectes. Mais rassurez-vous encore, il n'est pas seulement destiné aux entomologistes, mais aussi aux amoureux de la langue française et à tous ceux que le lien entre l'homme et la nature intéresse, tous ceux qui considèrent l'homme comme en faisant partie. Pour ceux que cette somme impressionne, je conseille de lire d'abord la préface d'Yves Delange aux éditions Bouquin Robert Laffont, pour avoir une vue globale de ce qu'a été la vie de Jean-Henri Fabre. Et ensuite, le lire les chapitres évoquant les souvenirs de l'auteur, plus particulièrement relatés dans la sixième série, chapitre 3, intitulé « L'atavisme », chapitre 4, « Mon école », et à la fin de la dixième série, chapitres 19 à 22, « Souvenirs d'enfance, insectes et champignons, mémorables leçons et la leçon de chimie industrielle ». Presque toutes les descriptions d'insectes sont émaillées de réflexions philosophiques, quelquefois poétiques sur la vie, la nature, l'homme et son rapport à celle-ci, sans manquer parfois d'un certain humour. Il aborde incidemment des thèmes aussi divers que l'éducation, la pédagogie, l'art, la guerre, et c'est en cela que chacun peut y trouver son compte. Voici comment Jean Rostand qualifiait Jean-Henri Fabre. Ce grand savant qui pense en philosophe, voit en artiste, sent et s'exprime en poète. Jean-Henri Fabre a d'ailleurs rencontré ou correspondu avec de nombreuses personnalités durant sa longue vie. Les plus notables étant le naturaliste Charles Darwin, le philosophe John Stuart Mill, le botaniste Esprit Requin, Louis Pasteur, Edmond et Jean Rostand. Darwin, avec qui il a correspondu régulièrement, et malgré leurs divergences de vues sur l'évolution, le qualifiait d'observateur inimitable. Il a même été ébranlé par le problème de l'instinct soulevé par Jean-Henri Fabre. Leur discussion a malheureusement été interrompue par la mort de Darwin. Voir la quatrième série, chapitre 12, méthode des amophiles. Ce sont ces différences de vues qui ont sans doute valu à Jean-Henri Fabre de n'avoir pas toute la notoriété qu'il aurait méritée dans la postérité. Mais je crois que c'est sa grande honnêteté et rigueur intellectuelle qui s'appuyait sur l'objectivité de ses observations qui ont justifié ses réticences vis-à-vis de la théorie de l'évolution. Il se décrit d'ailleurs lui-même comme un observateur et non un théoricien. Troisième série, chapitre 3, sur la larve de Cétoine. Toutefois, par la rigueur de ses études et la minutie de ses observations, faites sur le terrain, il est vu par beaucoup comme le fondateur de l'entomologie et comme le précurseur de l'éthologie. Avant de conclure, je ne peux résister à l'envie de citer quelques extraits. Huitième série, chapitre 7, « La guerre est l'art de tuer en grand nombre et de faire avec gloire ce qui, en petit, conduit à la potence. » Dixième série, chapitre 4, « Le présent se doit à l'avenir. » Septième série, chapitre 1, « Si l'on a vraiment un peu de feu sacré dans les veines, on reste écolier toute sa vie, non des livres, pauvres ressources, mais de la grande, de l'inépuisable école des choses. » Et cette dernière, que l'on peut craindre comme prémonitoire, un jour viendra, tout semble le dire, où l'homme succombera, tué par l'excès de ce qu'il appelle la civilisation. On voit ça dans la sixième série, chapitre 12. C'est donc un livre incontournable qui devrait être mis dans toutes les mains, surtout les plus jeunes, afin de montrer à quel point regarder le monde qui nous entoure et essayer de mieux le connaître peut nous inciter à le préserver et peut-être, in fine, à mieux vivre.
Le fil rouge de l'association. Merci Joël. Eh bah, c'est le moment de passer à la réponse du petit jeu. Est-ce que tu peux nous remettre le son ? Alors c'est pas Philippe hein, qui siffle, mais on dirait effectivement un petit. Et tu peux nous dire, hein, c'est quel oiseau ? C'est un oiseau magnifique. Alors, on le voit pratiquement jamais, pourtant, il a des couleurs de fou.
Eh bien oui, il est jaune ou jaune verdâtre et il se confond avec les feuilles des arbres. C'est le...
L'Oriot d'Europe.
Ah, magnifique oiseau.
Ouais, c'est vraiment un oiseau exotique. On vous invite à aller voir à quoi ça ressemble. C'est vraiment... Le mâle est vraiment jaune flashy avec une barre noire sur les ailes. C'est vraiment magnifique et il a ce magnifique chant flûté.
Ouais, ouais. Et c'est un visiteur estival, il reste peu de temps avec nous. Est-ce que tu as une idée de ce qu'on va faire le mois prochain?
Pas trop, je sais pas, j'ai des faucons cresserelles à la maison, on pourrait peut-être faire quelque chose sur les faucons, ouais, pourquoi ouais. pas.
Ah, surprise.
Surprise.
Bon, eh ben, il est temps de remercier Clotaire et Aliénor qui nous ont fait les génériques. Il est temps de remercier Damien, de remercier Principe Actif, évidemment Bernard, et puis notre équipe valeureuse, Camille, Alex, Joël.
Et puis Philippe.
Et, ben voilà.
Et c'est le moment du mot de la fin pour la nature.
C'est un enregistrement que j'ai fait chez moi il y a 3 jours. Et c'était un concert où j'avais plusieurs merles sur ma terrasse le soir. Et c'était... Je vous laisse écouter.
À bientôt.